Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Quelle est la capitale de la planète Terre? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle joie pour moi de pouvoir recevoir avec vous jour après jour, toute cette instruction qui vient de la parole de Dieu. Quel privilège on a dans notre pays d'avoir cette liberté d'entendre prêcher la parole de Dieu sans avoir à nous cacher, comme c'est le cas dans certains pays. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Existe-t-il un autre moyen que le sacrifice du Seigneur Jésus pour être sauvé? À qui est-ce que le Seigneur Jésus donne du repos? Selon la Bible, quelle est la capitale de la planète Terre? Est-ce que Dieu a un plan pour notre vie? Est-il bon de s'agenouiller pour prier? Est-il important d'avoir une relation intime avec Dieu? Est-ce que Dieu veut que tous viennent à lui? Est-ce que le chemin qui mène à Dieu est ouvert à tous? Demeurez à l'écoute. Dieu a la réponse à toutes nos questions. Et une fois de plus, il va nous répondre par sa parole et par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour la joie que tu répands dans nos cœurs quand on entend prêcher ta parole. Merci pour tout ce que tu nous donnes à travers ta parole, cette sagesse que tu fais accroître dans nos vies. Enseigne-nous aujourd'hui, donne-nous davantage de sagesse pour mieux te servir. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Salomon a entrepris la construction du temple avec l'aide d'Huram, roi de Tyr et de Sidon. Salomon était conscient du fait qu'il fallait un sacrifice pour pouvoir s'approcher de Dieu, et c'est pour cela qu'il construisait le temple. De plus, il se rendait compte que Dieu rencontrerait son peuple à cet endroit, mais il savait que Dieu n'habiterait pas dans une construction faite de main d'homme. Huram a dit du bien de Salomon. Il a reconnu que Dieu aimait le peuple d'Israël et qu'il avait donné de la sagesse à Salomon. Ceci nous a amenés à nous demander ce que les gens pensent de nous. Perçoivent-ils que nous appartenons à Dieu? Le temple, qui n'avait pas les dimensions les plus imposantes, était cependant richement orné. Ceci nous a amenés à nous demander si nous donnions notre meilleur à Dieu ou simplement des restes et des miettes. Chers amis, débutons notre lecture, 2 Chroniques chapitre 5, versets 7 à 9. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à distance de l'arche, devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, réfère au temps de la rédaction du livre des Chroniques. L'arche ne devait plus être déplacée. L'arche avait été construite au mont Sinaï dans le désert, et les enfants d'Israël l'ont transportée pendant 40 ans. L'arche les précédait lors de leur déplacement. Ils suivirent l'arche lorsqu'ils traversèrent le Jourdain afin de pénétrer dans la terre promise. Une fois dans le territoire, l'arche était encore déplacée. Les Philistins la capturèrent une fois, mais ils la retournèrent lorsque Dieu les frappa. L'arche avait été apportée à Jérusalem par David, et elle était sur le mont Sion en attendant que le temple soit construit. Maintenant, l'arche est installée dans le lieu très saint du temple. Elle ne sera plus déplacée. tous les mâles de la nation d'Israël devront se présenter au temple pour 3 fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Le sacrifice du Seigneur Jésus est le sacrifice final, chers amis. L'arche est un symbole de la personne de Jésus-Christ. Le propitiatoire sur l'arche illustre la rédemption, et son sang versé illustre la propitiation. Tout ceci est permanent. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Hébreux, chapitre 9, verset 26. Ce sacrifice de Jésus est permanent et fondamental. Il n'y aura pas d'autre moyen de salut. Écoutez ce texte. Une citation du livre des Actes, chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le Seigneur Jésus donne du repos à ceux qui viennent à lui. Cela indique aussi ce repos permanent. Le Seigneur Jésus donne du repos à ceux qui viennent à lui. Il y a un endroit de repos. Le Seigneur Jésus en a parlé à ses disciples dans la chambre haute. Écoutons à nouveau le Seigneur Jésus. Les propos rapportés par l'évangéliste Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. « Je vais vous préparer une place, et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre place est prête, et nous y serons un jour. Cet endroit est permanent. Il est éternel. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. C'est la cité de Dieu, et elle sera permanente. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Mes amis, nous ne serons jamais en marche. Nous n'avons pas à chercher Dieu. Comme Paul a dit aux Romains, nous n'avons pas besoin d'aller au ciel pour y faire descendre Jésus, ni d'aller en enfer pour le faire remonter. Il est là, parmi nous. Il est là, pour nous, de façon permanente et éternelle. Et cela ne changera jamais. Dieu est venu s'établir parmi les hommes d'une façon permanente. Verset 10 de 2 Chroniques, chapitre 5. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. La verge d'Aaron et le pot de manne qui avait été mis dans l'arche avec les tables de la loi ne sont plus là. La manne était un symbole de Jésus-Christ, le pain de vie. La verge d'Aaron, qui avait fleuri, était un symbole de la résurrection de Jésus. Exode, chapitre 16. Aujourd'hui, Jésus fut crucifié, a été enseveli et est ressuscité. Sa prêtrise repose sur sa résurrection, sur uniquement son œuvre. Versets 11 à 13. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Tous étaient présents à cette occasion solennelle. Oh, j'aurais voulu être. Verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Maintenant, nous passons au chapitre 6, afin d'examiner la prière que Salomon fit à Dieu à cette occasion. Deux Chroniques, chapitre 6, versets 1 à 6. Alors, Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël, pour qu'il y soit bâti une maison où réside mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. » C'est Dieu qui a choisi. Dieu a souverainement choisi Jérusalem pour être la capitale de cette planète. Il en sera ainsi un jour. Il a choisi Jérusalem pour y faire construire son temple. Il a choisi David pour roi et ensuite sa descendance. C'est le choix de Dieu, chers amis. Jérusalem devrait être au centre de notre univers, au centre de notre monde, sur cette carte. Et Dieu, qui a choisi Jérusalem, devrait être au centre de ma vie. Mes amis, nos choix sont souvent différents de ceux de Dieu. Par exemple, certains n'auraient pas choisi Jérusalem, mais un beau petit coin de pays en Samarie, où Achab et Jézabel ont vécu. Le paysage est splendide à cet endroit. On voit la Méditerranée, la vallée du Jourdain et la mer de Galilée. Mais Dieu a choisi souverainement Jérusalem. Dieu a un plan pour votre vie. Oui, mes amis. Dieu a un plan pour votre vie. Je pense que Dieu a choisi une place et une demeure pour vous. Sa volonté touche tous les aspects de votre vie. Notre problème, c'est de nous placer sous la volonté de Dieu. Nous pouvons discuter de libre arbitre et de souveraineté de Dieu tant que nous voulons, mais ce sera une perte de temps. Ce qui est profitable, c'est de trouver l'endroit que Dieu a choisi pour nous. Verset 7. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Salomon n'a fait que suivre les instructions de son père. Verset 10 et 11. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Le plan de Dieu s'accomplit toujours, chers amis. Versets 12 et 13. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain, et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel, et il dit, « Si vous vous demandez dans quelle posture prier, notez que Salomon s'est agenouillé. C'est une bonne posture pour une créature devant son Créateur. » Versets 14 et 15. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Salomon remercie Dieu car il est le Créateur, il est miséricordieux et il est fidèle. Dieu agit dans le cœur de David, dans la nation et dans le cœur ainsi que dans la vie de Salomon. C'est Dieu qui accomplit ses desseins. Il vous faut une relation intime avec Dieu. De nombreux chrétiens ont besoin de développer une relation intime avec Dieu. Ils affirment être chrétiens, mais ils veulent que Dieu garde ses distances, mes amis. Il vous faut une relation intime avec Dieu. La seule, unique façon de connaître Dieu, c'est d'avoir cette relation qu'il nous offre. Verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Le temple était un endroit où rencontrait Dieu. Ni Salomon, ni le peuple pensaient mettre Dieu en boîte. Versets 20 et 21. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple, d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Le temple devait devenir le centre vital de la nation. Tout serait centré autour du temple, ou si vous préférez, autour de Dieu et de sa présence. Versets 24 à 26. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés. Le temple était l'endroit où supplier Dieu lorsqu'il y avait des besoins. Dieu exaucerait les prières de ceux qui se repentiraient. Verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Le peuple pouvait venir à Dieu pour tous ses besoins. Verset 30. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Dieu nous connaît. Venons à lui. Dieu nous connaît, chers amis. C'est pourquoi nous devrions toujours venir à lui. Il nous invite à le faire. À maintes et maintes reprises, dans la Bible, nous sommes invités à rencontrer notre Dieu. Versets 32 et 33. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Le temple devait servir de témoignage au monde entier. Il avait une vocation missionnaire, faire connaître le seul vrai Dieu aux nations. Le temple ne fut pas construit seulement pour Israël. Le monde entier pouvait y venir. Un étranger pouvait rencontrer Dieu au temple. C'est ainsi que tous les peuples de la terre entendraient parler de Dieu. Un témoignage établi par la puissance de Dieu parmi son peuple. Verset 36. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. Lorsqu'ils étaient amenés captifs, ils devaient prier en regardant dans la direction du temple. Le prophète Daniel faisait cela. Il ouvrait sa fenêtre et, trois fois par jour, il priait vers Jérusalem. Le temple était pourtant détruit, mais Dieu entendit sa prière. Versets 38 à 40. s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Le temple était l'endroit où rencontrer Dieu. Versets 41-42. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Cette prière est un modèle. Elle est glorieuse. Elle est fondée sur la miséricorde de Dieu à l'égard de David. Et nous, que faisons-nous de cette miséricorde à notre égard? Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Il nous a ouvert un chemin, afin que nous puissions l'emprunter, et par le feu même, être ramenés à Dieu. Oui, le chemin à Dieu nous est ouvert. Vous et moi devons prier Dieu, car Jésus a ouvert un chemin au trône de la grâce en versant son sang pour nous à la croix. Que faisons-nous de cette invitation? Écoutez ce texte tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jésus dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Écoutez le verset 6, la réponse à cette grande question. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin, le seul, l'unique qui conduit au Père, Jésus-Christ. As-tu emprunté ce chemin? L'évangéliste Matthieu nous dit qu'il y a deux chemins. Un chemin large, qui conduit à la perdition éternelle, et un chemin étroit, celui qui t'est présenté à travers cette émission, Jésus-Christ, qui mène à la vie, qui mène au Père. Éloigne-toi de ce grand chemin large, spacieux, qui mène à la séparation de Dieu, et emprunte ce chemin étroit et resserré, qui mène à Dieu, à la vie, à la véritable vie. Écoutez, soyez attentifs à ce lien que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Voilà, une route nouvelle et vivante, inaugurée pour nous au travers de sa chair, au travers de son sacrifice, Jésus a inauguré une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et nous sommes tous invités à l'emprunter, afin de pouvoir nous approcher de Dieu, nous approcher de sa demeure, nous approcher de sa présence. Faites ce pas de foi. Allez dans cette direction que la Bible nous indique à suivre et à prendre, afin de pouvoir y trouver la présence de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 1 à 14.
Oh, merci beaucoup, Régent. On a encore eu tout un enseignement aujourd'hui à travers le deuxième livre des Chroniques. Mais ce qui m'a réellement le plus touché, c'est quand Régent a lu le chapitre 5, des versets 11 à 13. Permettez-moi de vous les relire, sans toutefois énumérer les noms des chantres. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et au verset 14, il ajoute que les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Mes amis, j'aimerais tellement que ce soit comme ça chaque fois qu'on apporte nos louanges à Dieu, soit dans la grande assemblée ou dans les autres occasions qu'on a de chanter la gloire de Dieu. Mais heureusement, je peux vous dire, et j'espère que vous avez expérimenté ceci, je peux vous dire qu'il y a des moments où la louange et l'adoration deviennent tellement intenses et réelles que la gloire de l'Éternel remplit le lieu où nous sommes. C'est tellement bon de vivre ça. C'est tellement bon de ressentir la présence de notre Dieu merveilleux. Oh, bien sûr, on a la foi, on sait qu'il est présent quand on le prie, quand on le loue de tout notre cœur. Mais quand il manifeste sa présence, c'est tellement extraordinaire. C'est un avant-goût du ciel, de cet endroit où on va passer l'éternité avec Dieu. Mon ami, connais-tu Dieu intimement? Sais-tu ce que c'est d'être en sa présence? Sinon, je vais te dire comment faire. Il faut simplement répondre à son invitation. Dans l'Apocalypse, au 3e chapitre, au verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, Jésus frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Tu n'as qu'à le laisser entrer. Ouvre la porte de ton cœur. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Jésus est mort à la croix pour payer ta rançon. Il a pris le châtiment qu'on méritait tous sur lui. Et maintenant, repens-toi. Détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie. Demande-lui de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Entends-tu qu'il frappe à ta porte? Ouvre la porte. N'aie pas peur, Jésus est présent. Et il veut te sauver.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.